Pendant que le rétablissement économique se déroule, on devrait aussi vraiment soyez attentifs aux gens qui ont eu des grandes périodes sans emploi. Eux autres ont pu être affectés dans leur futur engagement avec le champ de travail.
Bonjour et bienvenue à la deuxième partie de l'épisode de notre série de balado sur les compétences futures. Je suis votre animatrice, Isabelle Drouin. Nous discutons encore avec Rachel Wernick et Noël Baldwin, mais cette fois-ci sur le rapport du Conseil des compétences futures. Bonne écoute!
En 2019 et 2020, les membres du Conseil ont fait appel à divers intervenants nationaux et internationaux pour rechercher des perspectives sur les différentes façons dont l'innovation et la technologie affectent les collectivités et les personnes. Ils se sont ensuite réunis pour partager ce qu'ils avaient entendu. Ils ont recensé des thèmes récurrents qui transcendent les secteurs, la démographie et la géographie, les enjeux pan-canadiens, si vous voulez. Comme j'ai dit avant, la force du Conseil réside dans sa diversité. Alors, cet engagement, cette analyse reflète des perspectives de plusieurs secteurs, de tous les Canadiens. Et c'est comme ça la puissance des recommandations, parce que ça trouve les terrains d'action communs sur lesquels tout le monde s'entend, il est important d'agir. Je pense que je vais commencer avec les cinq priorités. Alors, le premier, c'est aider les Canadiens à faire des choix éclairés. Ceci parle du fait que les chercheurs d'emploi, les travailleurs, les employeurs, ils ont tous besoin d'outils accessibles, faciles à utiliser, qui fournissent des informations fiables sur les emplois et les compétences et la formation. La deuxième priorité, c'est égalité des chances en matière d'apprentissage permanent. Alors, ceci parle du fait que le Canada doit abolir des obstacles structurels et systémiques qui se dressent devant les groupes dignes d'équité. Chacun devrait avoir une chance de réussir en suivant de la formation et en obtenant et conservant un bon emploi. La troisième priorité, c'est développement des compétences pour favoriser l'autodétermination des peuples autochtones. Les organisations des Premières Nations, des Inuits et des Métis sont les mieux placées pour concevoir et mettre en œuvre des stratégies, des programmes et des services pour leur propre peuple et leur collectivité. Quatrième priorité, c'est approche nouvelle et innovatrice en matière de développement et de validation des compétences. La main-d'œuvre d'un domaine devrait répondre à des exigences professionnelles qui évoluent rapidement. Alors, les organismes devront se tenir au courant des nouvelles approches de formation pour répondre aux besoins des travailleurs et des employeurs. Et finalement, la cinquième priorité, c'est le développement des compétences pour un avenir durable. À l'ère des technologies émergentes et du changement climatique, le rapport parle du fait que nous devons équiper nos communautés pour le changement, préparer les chercheurs d'emploi aux emplois recherchés et soutenir les petites et moyennes entreprises qui sont à la base de notre économie. Je pense que la conclusion que je peux souligner, c'est que ça prend tous les secteurs publics, privés, syndicats, organismes à but non lucratif. Tous les secteurs ont un rôle à jouer pour assurer que on peut avancer les recommandations et les priorités élaborées dans le rapport. Selon le Conseil, une nation axée sur l'apprentissage est une nation où l'apprentissage est priorisé tout au long de la vie. C'est nécessaire pour assurer la prospérité de tout le monde. Et c'est particulièrement essentiel pour assurer la compétitivité du pays dans un contexte de changement rapide et continu.
Premièrement, je dirais que nous sommes très heureux de constater qu'il y a des liens très forts et importants entre les priorités du rapport et les priorités de notre plan stratégique. Et le rapport suit des perspectives identiques aux nôtres en soulignant l'importance de développer des partenariats clés et de construire un réseau d'intervenants de tous les secteurs afin d'identifier et répondre aux besoins des chercheurs d'emploi, des salariés et des employeurs. Alors, je pense que t'sais, tout cela permettra aux employeurs et responsables de politique de préparer les prochaines étapes du réétablissement économique et vraiment d'aider les travailleurs canadiens à devenir encore plus prêts pour l'avenir. Comme j'avais dit, les priorités sont vraiment en ligne avec ce que nous avons identifié aussi. Alors, je pense que ce type de consensus-là, c'est vraiment important, en particulier dans un pays comme le Canada qui est diverse, avec un système de politique où les responsabilités, se trouvent également au fédéral et dans les provinces et territoires.
Le rapport veut assurer qu'ils ont les outils qui leur permettent de développer des nouvelles compétences et pour être mis en contact avec des employeurs et des bons emplois. Quand on parle des employeurs au Canada, je pense qu'on parle plus des recommandations liées aux nouvelles formes de formation plus flexible et adapté aux besoins du lieu du travail. Aussi, je pense qu'on fait appel aux employeurs de considérer les diverses populations au Canada et comment ils peuvent faire leur part pour enlever les obstacles des barrières ou des discriminations qui jouent contre l'engagement de ces Canadiens. Alors, je pense qu'il y a un peu pour tout le monde dans le rapport en termes d'analyse, de recommandations, des actions qu'ils peuvent prendre pour avancer le mieux de tout le monde. Je pense que c'est réaliste si tous les secteurs, comme on dit, tous les joueurs font leur part pour monter un système de formation plus flexible, plus accessible, où il n'y a pas de barrières et qu'il y a des soutiens adaptés aux besoins des diverses personnes et des diverses régions du Canada. Mais je comprends un certain mal à l'aise avec cette terminologie. Je pense que quand on l'entend, ce qui vient à l'esprit, c'est un peu le modèle classique de d'être assis dans une chaise dans une salle de classe et oh mon Dieu, je dois retourner à l'école puis être à l'école toute la longue de ma vie, quelle horreur! Alors que derrière cette idée-là, c'est cette idée plus moderne d'apprentissage continu qui peut prendre toutes sortes de formes et qui est très adapté aux besoins des apprenants et que ça peut être vu comme une richesse, une possibilité de continuer à épanouir, si vous voulez, avec des nouvelles façons d'apprendre et d'atteindre des aspirations de carrière qui était avant peut-être un peu plus lointain dans notre esprit, mais qui de plus en plus on va pouvoir accéder à des postes et des possibilités très intéressants. Je pense qu'une action concertée est nécessaire. Il n'y a aucune organisation ou institution qui a toutes les solutions. Je pense que durant la pandémie, nous avons vu à quel point tous les secteurs se rallier et travailler ensemble pour le bien commun Et c'est ce qu'on doit continuer à faire quand on parle des compétences futures et une nation axée sur l'apprentissage.
Comme j'avais mentionné, nous trouvons beaucoup de liens forts entre le rapport et notre travail déjà. En effet, tu sais, nous avons déjà une cinquantaine de projets sur Terre, une autre groupe qui s'en vient dans le printemps. Nous sommes déjà travaillant en toute province et territoire avec presque tout secteur économique. Et comme vient de dire Rachel, c'est notre perspective aussi que c'est vraiment une défi collective. Nous avons établi une communauté de pratiques pour rassembler les projets pour pouvoir apprendre ensemble comment ils confrontent leurs défis dans le domaine de développement des compétences. Alors, et nous prévoyons aussi que le rapport va informer les directions qui s'en viennent. Alors, nous essayons d'être un acteur parmi d'autres qui contribue à cette réalisation d'une vraie écosystème de développement de compétences où nous pouvons apprendre ensemble ce qui est efficace, ce qui est des pratiques prometteuses et d'utiliser les réseaux dont réseau, les réseaux d'autres, nos partenaires dans le centre comme Conference Board of Canada et autres, les réseaux du gouvernement, pour vraiment pouvoir informer les directions futures dans le domaine de développement des compétences.
La collaboration, d'après Rachel et Noël, est une partie essentielle d'une nation axée sur l'apprentissage. Écoutons cet exemple de collaboration et d'innovation qui a vu le jour pendant les changements économiques et sociaux causés par la pandémie de la COVID-19.
Oh, bien, il y a vraiment beaucoup, mais je pense une des initiatives qui est vraiment intéressante et aussi vraiment importante dans l'époque du pandémie, c'est un projet dans les quatre provinces atlantiques qui est axé sur le développement des compétences pour ceux qui travaillent dans le domaine de apprentissage des petits enfants. Alors, nous savons que dans chaque province et territoire, les réglementations, l'administration des systèmes d'éducation et de la petite enfance sont différents. Mais les quatre provinces atlantiques se sont joints dans un projet mené à l'Université de Nouveau-Brunswick pour examiner ce secteur et les compétences requises pour vraiment être un succès. Également pour les centres de petite enfance que les enseignants de petite enfance pour développer une direction pour la future, pour que ce secteur qui est si important qu'on voit l'importance vraiment dans l'époque de pandémie. Moi je peux dire d'une façon très personnelle l'importance de ce secteur-là avec deux petits enfants chez moi. Pour faire certain que c'est un secteur qui va évoluer et vraiment répondre aux besoins de ces quatre provinces-là.
Rachel et Noël nous résument leurs réflexions face aux recommandations du rapport.
Je pense que mon appel à l'action revient au fait que les défis auxquels nous sommes confrontés sont trop complexes pour être résolus par un seul acteur. Ça prend la collaboration de tous, ça prend tous les niveaux du gouvernement, les entreprises, les syndicats, les fournisseurs de formation, les organismes autochtones et les organismes à but non lucratif. On est toute une gamme de joueurs qui doivent réunir ensemble pour préparer les Canadiens pour l'avenir du travail. Mais je vais finir avec une note positive parce que cela ne m'inquiète pas. J'ai vu une extraordinaire collaboration depuis un an, depuis qu'on travaille pour aider les Canadiens à passer à travers les
des conditions de pandémie et ça m'encourage qu'au Canada, on est capable de faire ce travail ensemble pour bâtir un meilleur avenir. Et je pense que les recommandations, le rapport du Conseil, ça nous donne une bonne carte à suivre pour avancer ce travail ensemble.
Mais c'est évident que, même avant la pandémie, mais certainement dans l'époque de la pandémie, on voit que certains secteurs ont été plus frappés, mais néanmoins d'autres ont vraiment eu de plus grands succès. Et on doit également soutenir les deux de différentes perspectives. Je dirais aussi que pendant que le rétablissement économique se déroule, on devrait aussi vraiment soyez attentifs aux gens qui ont eu des grandes périodes sans emploi, que eux autres on pourrait pu être affectés dans leur futur engagement avec le champ de travail. Et c'est peut-être un domaine qu'on devrait mettre encore un plus l'accent pour faire certain que ces gens-là vont avoir la chance de se bénéficier aussi de la rétablissement économique.
Parlons des compétences futures est une production d'Emploi et Développement social Canada. Toutes les opinions exprimées dans ce balado sont celles de l'individu et non pas nécessairement celles de leur employeur ou de DSC. Veuillez vous abonner à la série de balados et cliquez sur l'onglet de notification pour savoir quand le prochain épisode sera disponible. Merci d'avoir écouté. Parlons des compétences futures.